France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit une voix que le grand public a découvert très jeune et que l'on a vu grandir et évoluer depuis. Camélia Jordana est notre invitée ce soir. Chanter, jouer, écrire, prendre position, parfois se taire pour revenir autrement. Depuis ses débuts, Camélia Jordana avance avec une même boussole, celle de la sincérité, quitte à bousculer, quitte à déplaire, quitte à se remettre en jeu. Elle revient aujourd'hui avec un nouveau titre, Que ma peau, une chanson manifeste, intime et collective à la fois qu'elle va performer aujourd'hui en live. Alors ce soir, on va parler de musique, de cinéma, de langue, de transmission et de sororité. Camélia Jordana est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Camélia.
Salut.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Très bien, très content que tu sois là.
Moi aussi, je suis trop contente, merci de me recevoir.
Bah avec grand plaisir, on s'était vu il y a très longtemps, enfin très longtemps, pas tant que ça en réalité, mais pour la sortie de l'album Loft.
2018 je crois.
2018, ouais. Exactement. Là tu reviens donc, l'actualité c'est ce morceau, Que ma peau. Pourquoi? La question elle est simple, mais on va écouter ce morceau après. Pourquoi revenir avec ce morceau et ce clip aussi, dont on pourra parler à ce moment-là? Qu'est-ce que ce morceau signifie dans ta carrière?
Beaucoup de choses. C'est un morceau qui est assez chargé à plein d'endroits et en même temps très lumineux, je trouve, dans ce qu'il raconte. C'est comme une première prise de parole d'une nouvelle histoire que j'ai envie de raconter. Et je sais pas pourquoi, mais dès mon premier album, j'ai toujours eu la croyance que mon cinquième album, mon cinquième projet, la cinquième histoire que j'aurais envie de raconter... serait comme un grand rendez-vous avec moi-même. Et il se trouve que pour cette chanson-là, c'est la première fois que je suis complètement indépendante, en tout point.
Ok.
Et du coup...
En termes de même de signature de label, de maison de disque...
La totale.
Okay.
Tout est complètement autoproduit. Et du coup, bah, alors c'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, mais ça offre aussi une liberté totale. Et ça fait qu'artistiquement, bah, je propose une chanson qui est au millimètre près dans toutes les manières que j'ai de l'adresser, exactement ce que j'ai envie de raconter, de la manière dont j'ai envie de le raconter. Et cette histoire-là, c'est la célébration d'un héritage qui est celui de la sororité amazigh. Mmh. La culture amazigh, c'est la culture nord-africaine qui est plus communément appelée berbère, mais qui n'est pas tout à fait correcte parce que quand mes ancêtres se faisaient appeler les berbères, en fait c'était une insulte, ça voulait dire les barbares. Donc on essaye d'éviter de s'appeler nous-mêmes les berbères. Mais voilà, et du coup l'idée c'est de célébrer cet héritage-là d'honorer cette sororité-là. Et du coup, t'évoquais le clip, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec des femmes qui m'inspirent énormément, mais on pourra en dire plus tout à l'heure.
Justement, toutes ces femmes qu'on voit dans le clip, maintenant le clip où les gens entendent l'émission, il est disponible. Toutes ces femmes, c'est des gens que tu connais, des gens que t'as contactés pour ce clip-là. Comment t'as pensé le casting de ce clip?
En fait, c'est un clip que j'ai co-écrit, réalisé et coproduit avec Jordan Cardozo. Oui, je suis vraiment capitaine à bord pour mon plus grand bonheur. Et en fait, on a créé ce clip avec Jordan Cardozo, qui est aussi réalisateur de clips et qui me fait aussi le cadeau d'être mon manager dans la vie, pour cette nouvelle histoire qu'on raconte. L'idée, c'était que pendant que j'étais en train un peu de finaliser la dernière version, la version rêvée de cette chanson, en fait, en studio, j'appelais, je faisais des rendez-vous téléphoniques avec chacune des femmes qui m'a fait le cadeau d'être au casting du clip. Et je les appelais en leur racontant que j'avais très envie de créer une image dont j'avais l'impression de ne pas avoir eu le cadeau jusqu'à maintenant, à savoir voir des femmes nord-africaines réunies ensemble. Et du coup, je les ai appelées, chacune, je leur ai expliqué l'histoire du clip, je leur ai dit, je leur ai chanté la chanson au téléphone, en leur parlant de l'intention et de l'ambition du clip. Et ce qui m'a bouleversée, la première que j'ai appelée, c'est Sabrina Ouazani. Et elle m'a dit oui, et en fait, j'ai pleuré instantanément parce que je me suis dit, attends, c'est dingue, en fait, j'ai rêvé d'une chose, on a créé quelque chose avec Jordan. Et là, ça y est, en fait, le premier oui de Sabrina me montre qu'en fait, ça peut prendre vie. Et ce clip va pouvoir exister. Et cette image de femmes amazir réunies, unies, qui célèbrent leur culture et leur héritage ensemble, et cette richesse-là, cette image-là va pouvoir exister. Et du coup, on retrouve, comme je disais, Sabrina Ouazani, Kellyanne Moore, Rachida Brakni, Nedra Ayadi, Lina Swalem, Amel Bent, Julie Benadji, Sonia Faidi, Sonia Labadie, enfin le casting. Et
ouais,
non, c'est que
fou.
Des queens ouais. que j'estime tellement, que j'admire tellement, Kaoutar Benhania, Myriam Boukadida, enfin vraiment voilà, des déesses quoi. Et en plus, ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est que toutes les femmes que j'ai eues au téléphone m'ont dit oui. Alors, il y en a qui, malheureusement, n'ont pas pu pour cause de planning,
oui,
voilà,
oui.
d'emploi du temps, même si j'ai encore une ou deux idées derrière la tête, du coup.
Mais elles étaient partantes, en tout cas.
Mais elles étaient toutes partantes et disposées et engagées, en fait. Elles étaient toutes... elles se sont toutes senties concernées par le désir de rendre cette image possible et ce message possible et de voir des femmes qui excellent dans plein de branches différentes et de se dire c'est hyper joyeux de nous voir toutes dans le même cadre en fait, en train de se célébrer toutes.
Alors le morceau il s'appelle Que ma peau, on va l'écouter dans quelques minutes, oui. Mais t'as dit quelque chose aussi d'intéressant, c'est que t'as dit c'est presque le point de départ d'une nouvelle histoire que t'as envie de raconter. Est-ce que tu vois, tu sais, chaque album comme des eras. Et souvent, on parle de ça. Et parfois, il y a des artistes qui vraiment ont des... vont créer des personnages pour un album, pour plusieurs albums. Et puis, après, ils tournent la page. Ils passent à autre chose. Un des plus grands exemples, évidemment, c'est David Bowie. Mais on pourrait en citer énormément d'autres. Même Lady Gaga, dans la pop contemporaine, qui vraiment a des moments, des périodes. Et puis, est-ce que c'est aussi comme ça que tu vois ta carrière? En tout cas, c'est chaque album, c'est une nouvelle histoire et presque aussi une nouvelle era pour toi?
Complètement. J'adore l'idée qu'un album soit un cliché, comme un cliché photographique, en fait un cliché sonore de l'identité de la personne qu'on est, de l'artiste qu'on est au moment où on crée cet objet-là. Et j'avoue que aujourd'hui, mon indépendance me permet aussi de m'entourer de personnes qui, quand elles choisissent de s'engager sur mon projet, le font de bon cœur et se retrouvent pas forcément comme dans des grosses majors,
ouais.
avec un projet parmi plein d'autres, avec une liste, une to-do. Même si les personnes avec lesquelles je bosse, fort heureusement, travaillent aussi avec d'autres artistes sur d'autres projets. Mais ce que je veux dire, c'est que l'indépendance permet que chacune des personnes, chaque membre de l'équipe, soit là par choix. Et ça change un peu tout aussi dans le rapport de l'équipe en interne, et ça change aussi ma manière de raconter cette histoire-là, que ce soit dans ma liberté de création, mais aussi dans ma liberté en termes d'image, aussi parce que du coup je choisis de travailler avec des gens qui pensent tout aussi sincèrement que moi que l'image est aussi importante que la musique sur un projet, ces eras là que t'évoques justement. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que je suis entourée de gens qui considèrent à ce point cet espace là et qui ont envie de l'investir autant que moi, et du coup ça m'excite énormément. Donc ouais, nouvelle era, super excitante.
Et justement parce que il y a aussi quelque chose dans le morceau qu'on va écouter, c'est et je pense que ça c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que c'est déjà un peu le cas sur un morceau que t'as sorti en 2025 qui s'appelle Winrack, c'est le mélange aussi des langues, c'est-à-dire qu'en fait tu passes de l'anglais, français au darija. Enfin ça justement, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour toi, ça donne aussi une autre couleur au morceau et on sent vraiment que tu passes mais vraiment d'un mot à l'autre, c'est pas, il y a pas un couplet en anglais puis un couplet, c'est dans la même phrase, ça change de langue. Ça c'était quelque chose que tu as pensé comme ça de manière aussi instinctive ou qu'est-ce que tu veux raconter aussi à travers ça?
Alors, il y a plusieurs choses. En effet, tout à l'heure, tu as cité Winrack, le morceau qui est sorti en 2025, qui est en français, darija, donc l'arabe qu'on parle en Algérie, le dialecte algérien, et avec un petit peu d'espagnol aussi.
Ouais.
Et il y avait quand même cette idée de faire un clin d'œil, même dans le clip, dans la référence. Ce que j'avais en tête, c'était le destin de Youssef Chahine, et qui est un film qui se passe pendant la cohabitation.
Classique.
Ouais, classique absolu, ouais. Grande, grande beauté du cinéma égyptien, et qui se déroule en Andalousie, pendant la cohabitation donc, des rois catholiques et des musulmans.
Ouais.
Et moi, j'ai eu la chance de grandir avec cette imagerie-là. Ma mère nous montrait les films de Youssef Chahine et nous faisait chanter les chansons gamines avec ma grande sœur. Et c'était très évident pour moi de prendre aussi, d'ancrer cette époque-là cette histoire-là, en fait, dans une chose qui raconte tellement, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est très facile de croire que tout est sombre, que tout est compliqué, que tout est tendu, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste qu'il y a peut-être moins d'espace pour montrer que pas que. Pas uniquement. Et du coup, moi, dans ma musique, c'est une chose à laquelle je tiens, à laquelle j'ai toujours tenu. Dès Lost, d'ailleurs, pour lequel on s'était déjà rencontrés. Voilà, l'idée de mélanger des cultures, je trouve ça hyper important. Et c'est assez logique, en effet, dans ma manière de créer, d'écrire, c'est quelque chose de très instinctif. Je trouve ça très ludique aussi, de pouvoir passer d'une langue à l'autre et de jouer avec les sons, comme on jouerait avec un instrument, avec une percussion. Et du coup, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aller avec l'école publique. Quand j'étais gamine, j'avais eu droit de voyager en Andalousie, justement, en quatrième, je crois. Et c'était pendant la Feria, et à Jerez de la Frontera, Sevilla, Granada, Córdoba. Et en arrivant là-bas, tu sais, j'ai eu un truc vraiment physique, épidermique. Attends, j'ai un truc... Mon histoire est liée à cette terre, c'est pas possible, tu vois. J'ai senti quelque chose, quoi, et ça m'a jamais quitté. Et j'étais passionnée de la langue espagnole, je faisais espagnol européen, et du coup, j'apprenais beaucoup l'histoire espagnole, l'histoire d'Amérique latine et tout. Et donc ça me permettait aussi de pouvoir faire des liens étymologiques, linguistiques, entre toutes les langues latines, si tu veux. Et même donc avec le derija, l'arabe. Donc c'est vrai que oui, la générosité et la richesse en fait de ces langues qui s'entremêlent, qui se croisent, et donc de fait de ces cultures, pour moi c'était très très évident que ça prenne vie dans ma musique et dans mes paroles aussi.
C'est intéressant parce que vu qu'on parle d'Espagne, une des plus grandes représentantes du pays espagnol aujourd'hui c'est Rosalès. Sur son dernier album Lux, elle parle 13 langues différentes, donc il y a quelque chose qui est presque dans l'air du temps.
Chef d'œuvre d'ailleurs, Lux.
Extraordinaire. Tu sais que je m'en veux, mais j'ai pas aimé Lux à la première écoute. J'ai pas compris l'album. Et maintenant, je le trouve extraordinaire.
T'as pas aimé ou t'as juste pas compris ?
J'ai pas compris, du coup, je crois que j'ai pas aimé. J'étais fermé. Mon cœur était fermé à l'époque. Maintenant, heureusement, il s'est ouvert.
Après, tu sais, moi, il m'en a fallu 4 avant de.
Ouais, c'est un disque qui est challengeant, en fait.
Recevoir sa musique. Ouais. Je suis complètement d'accord, c'est hyper challengeant. Je me suis mis mon réveil à minuit, je l'ai écouté 4 fois. Ouais. Parce que je suis une grande admiratrice de Rosalía. Et vraiment, il m'a fallu 4 écoutes. Pour enlever tout ce qu'il y avait d'attente.
Oui. Est-ce qu'on pouvait attendre d'elle, exactement, tout à fait.
Et justement, je me suis dit, en fait, mais dans la nuit, c'est fou ce que je vais dire, c'est très bizarre, mais ça m'a fait l'effet d'une nuit d'amour avec l'amour de ta vie, tu sais, où du coup, le lendemain, tu vas faire ta vie, j'étais en tournage et j'arrivais au tournage et je parlais à tout le monde, tu sais, complètement shootée, parce que je me disais, waouh, mais rien que d'en parler, j'ai des frissons. Je me disais, mais quel cadeau elle nous a fait à son public et quel cadeau elle a fait aux artistes de se dire, mais attends, t'es numéro uno ou non ?
Ouais. Ça donne un cap, en fait.
On top. Ouais. Et au moment où tu es libre de faire absolument tout ce que tu veux et que tu es la pop star mondiale actuelle de ta génération, voire toute génération confondue, tu décides de faire un album symphonique dans lequel tu parles 13 langues et où tu mets le féminin sacré au centre et à l'honneur. Et même les plus fans, les plus conquis, ont besoin de plusieurs écoutes avant de pouvoir recevoir cette musique-là, d'essayer de la comprendre, d'identifier la démarche. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un cadeau pour les artistes de se dire, en fait, la liberté. La liberté artistique. Donc, ouais, cet album, moi, il m'a giflé, il m'accompagne encore.
Je pense que c'est une des meilleures chroniques de l'album de Rosalía que j'ai entendu. Je propose, vu qu'on parle de ce morceau de Ma Peau, on va l'écouter, quand même, ce tout nouveau morceau. Tu vas le performer tout de suite en live, dans l'émission. Voilà. Camilla Jordana, Que ma peau.
Que ma peau, pas mes yeux, pas mes mots, à la force de mes os, j'ai gardé ma place malgré tout, j'ai pris ta haut, chanté le drapeau, comme c'est pas cadeau, je parle mais t'entends plus quand je te colle. because of the way I talk through with all that I've been through. C'est pas de ma faute si toi t'es rongé par la haine gonflée de dilemmes. T'en viendras à bout, tu sais que bientôt tu sautes pas comme si t'étais pas genoux. All these girls, you know all these girls, it's the first time we are seen as pearls. Kayin farhan fi galbi ta'i, please believe me, baby habibi. Ce monde invisible, viens suis-moi, avance ce paume ouverte, c'est moi. Je te le dis sans faille, moi je te dirai bye. C'est que ma peau, baden goulak, t'inquiète quoi qu'il yalhaq waqtak, machi mouchkil. Smani yoni, nahdol maek, ça y est c'est fini de faire le mec. All these girls, you know for these girls, it's the first time we are seen as pearls. Kayin farhan fi galbi ta'i, please believe me, baby habibi. Ce monde invisible, viens suis-moi, avance ce paume ouverte, c'est moi. Je te le dis sans faille, moi je te dirai bye. C'est que ma peau, c'est que ma peau.
C'est Camélia Jordana en live aujourd'hui avec son tout nouveau morceau « Que ma peau ».
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye.
Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye.
Non, ça c'est... A priori, un morceau qui n'a rien à voir avec Ma peau, un morceau de Manic Bye Bye. Mais
et
si,
pourtant,
puisque tu le cites, plus ou moins, tu cites la rime Bye Bye sans faille. Est-ce que c'était juste une blague? C'est un morceau qui a compté pour toi, ce morceau de Manelik. Comment il s'est retrouvé dans ce morceau aussi personnel?
Honnêtement, il s'est retrouvé dans le morceau de manière complètement spontanée.
Ouais.
Mais c'est quand même un morceau que j'adore, que j'ai beaucoup écouté,
ouais.
Et qui m'amuse beaucoup, parce que quand je l'écoute aujourd'hui, je suis là, mais les gars, ça va pas du tout cette histoire, vraiment, quittez-vous, quoi. Mais pour autant, c'est une chanson que j'adore et qui compte beaucoup pour moi. Mais non, c'est une espèce de clin d'œil comme ça, mais c'est vrai que dans
ça
le sens...
Ça fait partie de la pop culture, en fait,
ouais,
aujourd'hui,
exactement.
Maintenant, on se pose même plus la question du morceau. T'as dit quelque chose à plusieurs reprises au début de la discussion sur cette notion d'indépendance, d'être indépendante. Ouais. Et j'imagine qu'aujourd'hui, avec la carrière que tu as, le statut que tu as, c'est un choix d'être indépendante, puisqu'en fait, j'imagine que tu as des propositions, tu pourrais te signer en maison de disques, bref. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi c'est important pour toi, au-delà de la liberté? Parce que j'imagine aussi qu'il y a des artistes qui sont en maison de disques et qui sont plus ou moins libres, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une forme de... C'est presque un message que tu envoies, de dire « je suis indépendante ». Pourquoi, du coup, tu tiens à ça?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est que je suis une vierge de septembre et que du coup, je suis une grosse contrôle fric. Et que quand tu travailles avec une maison de disques, tu peux pas être contrôle fric jusqu'aux moindres angles, aux moindres recoins et tout ça. Et que, en fait, ces 17 années d'expérience et de parcours comme ça dans l'industrie musicale française m'ont appris...
Et cinématographique aussi. Enfin, même si on parle de la musique, mais mine de rien, je pense que ça te donne aussi un regard sur le show business et l'industrie au sens large, en fait, forcément.
Complètement, sur le monde de la culture et comment la production, l'industrie de la production de la culture est structurée. Enfin, les industries, du coup, musique et cinéma. Et en fait, j'ai eu la chance d'expérimenter vraiment des structures différentes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, bah, évidemment, j'avais un contrat... très, très confortable quand tu signes ton premier contrat, parce que tu es hyper contente de signer chez Sony Music avec plusieurs albums, etc. Sauf qu'il y a plein de choses moins confortables et de douilles que tu lis pas forcément, ou alors que tu lis mais que tu comprends pas, tu mesures pas forcément. Bon, voilà. Et puis après ça, je suis passée après plusieurs années et plusieurs contrats bons, je suis passée en ce qu'on appelle distrib amélioré. Donc j'étais ma propre productrice, mais j'avais ce qu'on appelle des co-exploitants, c'est-à-dire des gens qui avancent les frais de ton projet, que ce soit artistique ou marketing, et c'est à la fin de l'exploitation du projet qu'on fait les comptes et qu'on dit, bon ben voilà, toi t'as tant de pourcentage, t'as tant de part du gâteau, etc. Sauf que qui dit que ces personnes, qui dit j'avance les frais, dit j'ai mon mot à dire sur combien on avance et dans quoi. Et tu disais, c'est pas que question de liberté, et en fait si.
Okay.
Parce que avoir une chaîne ou un label qui vient m'expliquer que je peux pas faire un clip à plus de temps, alors que je vois très bien que bah, cette chaîne-là, c'est justement parce qu'elle a des subventions, enfin que tel label a telle subvention, ou qu'il est tellement riche qu'il s'en fout d'investir tant, parce qu'en fait, avec telle subvention, en effet, il se rembourse, ou alors que telle chaîne, comme elle est partenaire sur le projet, mais en fait, en diffusant le clip en une semaine, elle se rembourse, et que du coup, en fait, c'est juste le but de ne pas investir un centime. Enfin, tu vois, parce que je suis de nature très curieuse, c'est-à-dire que la Vierge de septembre, que je suis encore une fois en plus des contrôles fric, j'ai besoin
de comprendre.
De comprendre.
Ouais.
Si je ne comprends pas le fonctionnement de quelque chose, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas. Mon cerveau freeze. Je ne peux pas passer à l'étape d'après. Je n'en suis pas capable. Mmh. Je n'ai pas cette capacité-là. Du coup, ça me contraint à poser tout le temps des questions, mais pour être certaine de tout comprendre, de comprendre le fonctionnement. Et donc, au fur et à mesure, comme je disais, ces 17 années m'ont poussée à réaliser que, parce que par ailleurs, comme je disais sur l'album précédent, j'étais quand même ma propre productrice, donc j'avais des partenaires qui donnaient leur avis et qui avançaient les frais communs, mais pour autant, j'étais quand même capitaine à bord, parce que c'était moi qui choisissais les équipes avec lesquelles je travaillais, ce à quoi ressemblaient les visuels, j'écrivais, je produisais, je réalisais déjà mes clips, etc. etc. Donc j'étais quand même déjà dans une forme d'autonomie et d'indépendance, mais quand même contrainte à plein d'endroits et pas si libre. Et j'avoue que voilà, après avoir expérimenté plein de choses, plein de formes différentes,
oui,
de production, je me rends compte que, bon après, je découvre ce que c'est que d'être complètement indépendante.
Ouais.
C'est la première fois, cette chanson, c'est la première que je sors. Enfin, il y a eu Winrag juste avant, mais j'ai l'impression que Winrag, c'était un indice pour la nouvelle era qu'on évoquait tout à l'heure, que vient ouvrir officiellement Que ma peau, cette chanson. Mais j'ai l'impression, en tout cas jusqu'à maintenant, que ça offre quand même, cette liberté offre une fluidité dans la manière de faire les choses, dans la manière de communiquer avec les partenaires et les alliés sur le projet. Et tout est plus fluide quand même. C'est-à-dire que je me rends compte, là j'ai tenté, et puis en fait non, dès que je tente, je me rends compte que bah non, ça, c'est moins fluide, ça se passe pas de manière aussi douce et bienveillante que ce que ça se passe avec les autres partenaires. Ouais. Enfin voilà, donc je tiens à ce que... quand je dis que je suis contrôle fric, c'est aussi parce que je tiens à ce qu'il y ait justement une dimension humaine, en fait, dans mes rapports professionnels avec mes partenaires. Et quand tu rentres dans une logique avec des labels, il y a forcément un moment où bah, les intermédiaires qui vont te représenter ne sont pas des personnes auxquelles tu parles plusieurs jours au téléphone.
Oui, monsieur.
Tu vois. Et du coup, tu ne connais pas les personnes et donc tu ne sais pas comment les personnes s'adressent aux gens. Tu
et
ne sais pas comment
ils parlent,
mais même pas forcément de ton projet, juste comment ils s'adressent aux gens qu'ils
ont
en face.
Oui, oui.
Et rien que ça, moi, c'est un truc, je contrôle fric au point d'avoir besoin d'être certaine de comment s'adressent les gens aux personnes autour.
Donc, ton manager, que tu sais tout à l'heure, Jordan, il a dû passer un vrai entretien d'embauche terrible avant d'être pris comme...
Il a pas eu besoin, parce que la blague, c'est qu'en fait, avec Jordan, on est de vieux amis. On a été amis, on s'est rencontrés à l'époque de Lost, justement.
Ouais.
Il s'occupait de Point Point, Nomac, etc. Des artistes électro avec lesquels j'avais travaillé pour l'EP de Lost, l'EP du troisième album,
ouais,
qui avait précédé la sortie du troisième album. On était devenus hyper potes à ce moment-là. Et cette bande de petits rigolos ont eu la super bonne idée de se tirer à Los Angeles, à ce moment-là. Donc moi, je me suis amusée à faire quelques allers-retours et j'étais hyper heureuse et j'ai découvert Los Angeles avec eux et on faisait de la musique dans les studios de Skrillex et c'était super bien et ils faisaient des tournées avec DJ Snake, etc. C'était génial. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, moi, il fallait quand même que j'avance sur mon album et que Los Angeles, c'est pas donné. Donc je me suis retrouvée à concentrer ma création à Paris. On a un peu tous fait nos vies chacun de notre côté. Et Jordan, après avoir monté une boîte de prod là-bas, fait plein d'images, fait plein de musique, etc., s'est décidé à retourner, à rentrer en France, vivre en France. Et je l'ai contacté il n'y a pas si longtemps pour solliciter un de ses artistes pour le mix d'un artiste que je produis. Et donc on s'est dit, bah, prenons-nous un déj à l'occasion, on se fait un point de nos lives et tout ça, parce qu'on ne s'était pas vu depuis 12 vies à peu près. Et puis en partant, voilà, après s'être fait 45 débriefs, il me dit, ah bah envoie-moi l'album à l'occasion, machin. Et donc, il a écouté l'album le lendemain et il m'a dit, bon, je fais jamais ça, mais là, j'ai écouté 3 chansons. En fait, il faut faire ça avec l'album. Et je lui dis, mais c'est dingue que tu me dis ça. Ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je fasse ça avec l'album. Et à chaque fois que j'en parle autour de moi, les gens sont terrorisés. Il me dit, écoute, je suis désolée, j'ai pas encore écouté le reste de l'album. Donc, voyons-nous, écoutons-le ensemble, parlons-en. Et en fait, ça s'est fait, mais vraiment, je sais pas, 3 jours, quoi, 4 jours. Et je lui dis, let's go, quoi.
Parce
ça part.
Parce que tu mentionnais l'album Lost, tu as une victoire de la musique pour cet album. C'est intéressant parce que toi, on parle de 17 ans de carrière.
Oui.
Donc, c'est beaucoup, mais t'es jeune. C'est-à-dire qu'on t'a découvert très jeune.
Bébé,
et donc,
ouais.
T'as un César.
Oui.
T'as une victoire de la musique.
Oui.
Les gens qui travaillent toute leur carrière pour avoir ça. Est-ce que ça a de la... Évidemment que ça a de la valeur, mais est-ce que ça... Quelle signification ça a pour toi? Est-ce que ça compte particulièrement? Ou est-ce que c'est juste, voilà, des moments, des trophées sur ta carrière que t'as eu comme ça? Ou est-ce que... qui donne une valeur particulière à cette victoire de la musique, à ce César? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, chacun a... Bon, évidemment, ça a de la valeur. C'est très important, c'est très beau. Mais c'est aussi pas si important. C'est-à-dire que...
Je savais.
Non, c'est-à-dire que Et puis, ils ont une histoire différente, forcément. Ce qui est très beau et très émouvant avec ces prix-là, ces reconnaissances-là, c'est que c'est une reconnaissance des industries. En question.
Oui.
C'est-à-dire que le César, c'est une reconnaissance de
des professionnels,
pères,
ouais.
professionnels du cinéma qui ont dit on a aimé ta prestation, et puis quel César? Le César du meilleur espoir. C'est quand même magnifique comme
ouais.
terme. Donc ça veut dire que l'industrie vient et place de l'espoir en toi en disant vas-y, travaille. Ça, tu nous intéresses, travaille. Et donc ça, c'est génial parce que ça me donne une espèce de grinta de malade où du coup je me dis mais en fait, parce que, évidemment, on a une époque où on communique beaucoup plus sur les wins que sur les fails. Or, il y a 35 fails pour un vrai win. Une vraie win. Et du coup, justement, pour tous les fails, ça, non pas que je me dis à chaque fois que je me prends les pieds, ouais, mais c'est bon, j'ai un César, pas du
non,
tout.
Mais, ça...
mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ça soit arrivé, ça a construit dans mon cerveau, je pense, malgré moi, un truc de, bon, en fait, on sait que c'est galère, mais ça me donne une grinta pour travailler encore plus, en fait.
Okay.
Et accepter les fails et dire, en fait, au boulot, quoi, c'est cool. Et la victoire, c'est assez fou aussi. D'autant que c'est la victoire de la musique, c'est un prix que j'ai reçu pour l'album qui existe le moins sur cette planète, qui a été le moins pressé. Il n'existe que 4000 exemplaires, quoi. C'est-à-dire
ouais.
le truc est collector carrément, et parce qu'il n'a pas été travaillé. Et que je pense que les équipes n'y croyaient pas beaucoup au moment où il est sorti, même s'ils aimaient la musique, mais en tout cas, voilà, en termes de commercialisation,
oui.
c'était plus complexe,
ouais.
je pense. Et donc, le fait de me dire que mon album qui a été le moins écouté et celui qui a été le plus salué, à nouveau par mes pairs dans la musique, par l'industrie musicale, ça m'a quand même énormément apaisée, parce que c'est un album qui m'a coûté, je dis ça à chaque fois qu'on parle de cet album, c'est l'album qui m'a le plus coûté en point de vie, en énergie, en argent, sur lequel j'ai énormément appris, justement, en tant que productrice indépendante et tout ça, que je n'étais pas, et dont je n'avais pas le crédit à l'époque, mais dont je faisais déjà quand même une grosse partie du travail. Donc voilà, et en même temps, quand je dis c'est pas important, c'est parce que, bah non, je pense pas à la victoire, au César, au
tous les jours, oui.
C'est que, en fait, ça reste des moments magnifiques avec des soirées extraordinaires où on flotte et où on se dit, oh, c'est bouleversant de se dire que plein de gens ont été d'accord pour dire que ce travail-là méritait d'être souligné. D'autant que, comme tu disais, j'ai commencé à travailler à 16 ans, enfin, j'ai commencé à travailler à 14 ans, mais j'ai commencé ma vie d'artiste
ouais.
professionnelle à 16 ans. Et je n'ai fait exclusivement que travailler jusqu'à aujourd'hui. J'ai 33 ans. Et donc le fait de se dire, ah, il y en a qui ont vu. Il y en a qui ont vu le travail. Et ça quand même, c'est ça qui est important pour moi, je crois. Ça donne de la force, quoi.
Bon, puisqu'on parle de là, je pense qu'on écoute un morceau extrait de
ouais,
là, de cet album, qui a donc été victoire de la musique. C'est le morceau Dao,
ah, yes.
qu'on va écouter, qui est un des morceaux peut-être les plus signatures
ouais.
de cet album.
Ouais.
On écoute ça, donc Camélia Jordana, avec cet album sorti 2019.
18 ou 19, ouais. 18, je pense, parce que la victoire, je crois que c'était en 19.
C'est,
je crois.
Une autre époque déjà.
Ah, oui.
On s'écoute ça, Camélia Jordan.
À mes poignets des bijoux. À mes poignets des bijoux. Fermés. Liés à mes pieds, dans mes veines des bateaux. Dans mes veines des bateaux. Si beau dans la Seine, le poids des eaux. Dans la Seine, le poids des eaux. Il court depuis le grand saut. On sent un peu de bruine, toujours laver mes racines dans ma tête des idées. Ça dit le couteau dans les rafales, mes adieux.
Ça, c'était un morceau qui s'appelle donc Dao, de notre invitée Camélia Jordan. C'était sur l'album Love, sorti en 2019.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
De ce si bel enfer qui commence à me plaire, je ne veux pas quitter mon salon. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, non,
ça, c'est un tube, hein.
Ouais, il
ça,
paraît,
ça, ça te fait quoi? Donc ça, c'est extrait de ton premier album.
Ouais. Qu'est-ce premier que extrait.
Premier extrait de ton premier album.
C'est ma première chanson ever.
Et ça sent vraiment, il y a, c'est un autre moment même pour toi dans ta carrière, dans la musique française, dans tout. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre? Est-ce que tu le réécoutes des fois, ce morceau?
Alors non.
Cet album même.
Non, non. Parfois, ça m'est arrivé d'écouter l'album. Généralement, j'écoute mes albums au moment où je sors un album. Un peu en me disant, alors c'est quoi,
qu'est-ce que j'ai fait,
quelle histoire on raconte dans l'ensemble, quoi. Donc c'est quand même assez rare. Mais du coup, non, j'écoute pas trop, non, 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 parce que déjà je l'ai énormément chanté, vu que j'ai eu la chance que ce soit un gros succès.
Ouais.
Donc il y a un moment où j'en pouvais plus. Non, là tout de suite de l'entendre, j'écoutais comment je chantais tellement différemment, c'est marrant.
Ah ouais, tu sens que la technique vocale
a
changé.
Ah ouais, ouais.
Que t'étais plus inexpérimenté. Forcément.
Plus expérimenté, c'est sûr, mais c'est
plus
surtout
que
je timbrais beaucoup plus, quoi.
Ok.
Puis je fumais des grosses clopes en plus à l'époque, et pas que, donc je pense que c'était collé et tout. Donc c'était vraiment, tu sais, la grosse voix. J'avais beaucoup plus de graves, beaucoup moins d'aigus.
Après,
un truc un peu plus volontaire.
Il y a aussi quelque
voix.
Chose, j'imagine. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais t'avais aussi fait la Nouvelle Star, donc ça c'est aussi quelque chose qui est important évidemment dans ta carrière. Donc t'étais très jeune.
Ouais.
Aujourd'hui, quand on te parle et quand on t'écoute, on a l'impression que t'as trouvé ton style, en tout cas, que t'explores des styles de manière très très singulière. J'imagine qu'à ce moment-là, c'était pas forcément le cas, parce que t'étais forcément une jeune artiste, donc tu te cherchais aussi, forcément.
Complètement. Je me rappelle, pour le premier album, on avait reçu, je crois, 400 chansons, comme ça, quelque chose comme ça. Et je me rappelle que je disais, je sais ce que je ne veux pas, mais je sais pas ce que je veux.
Mmh.
Et donc j'avais des influences, ça allait de Lily Allen à Kate Nash en passant par Herman Dune et Devon Rabanhart et Lou Reed et tu vois.
Ouais, ouais.
Et Nico avec ses albums Chelsea Girl et des trucs, mais
ouais.
Et puis même aujourd'hui, tu sais, là je suis en studio, du coup je fais plein de chansons. Et
pour un album peut-être, je sais pas.
Peut-être. Pour cette nouvelle era en tout cas. Et en fait, si tu veux, c'est assez drôle comme expérience parce que bah du coup comme je suis complètement indé, c'est très artisanal. Donc j'ai travaillé à la maison, après je suis allée à la campagne, je me suis enfermée avec des personnes avec lesquelles j'ai co-composé des chansons, et puis ensuite j'ai fait mes textes et mes mélodies, et puis après on a mis des petites pistes d'arrangement ensemble, des directions comme ça, très numériques, et puis après je suis allée en studio, j'ai refait avec des violons, avec un oud, une guitare, des percussions, et puis maintenant je fais de l'édit, maintenant que j'ai enregistré tout le monde, et puis après il y a les voix def, et puis du coup je repense complètement l'arrangement, enfin voilà, c'est un process très long. Et en fait, ce process me fait aussi à nouveau prendre conscience, cette bonne petite leçon d'humilité, quand t'es artiste, il y a vraiment ce travail de réussir à faire la différence entre ce qu'on aime en tant qu'auditrice, ce qui nous touche en tant qu'artiste, ce qu'on a envie de faire en tant que citoyenne, ce qui nous va, ce que les gens aiment de nous, et la musique qu'on pense être importante de faire aujourd'hui. Et réussir à faire un combo de tout ça qui nous paraisse être le plus juste, c'est hyper dur. Parce que du coup, je me retrouve par exemple en studio, j'ouvre enfin les guitares après avoir édité les percus, les violons, bon ok, super. Et ben, je joue la guitare et je trouve ça sublime, mais c'est tellement plus la musique que je veux faire aujourd'hui. Et je me dis, merde, putain, mais... En fait, c'est horrible parce que du coup, tu dis adieu à de la musique qui n'existera jamais, que tu trouves trop belle. Mais c'est pas toi aujourd'hui, tu vois. Mmh. Donc c'est tout un process.
C'est une équation assez compliquée à résoudre, en fait.
Ouais, assez. Okay.
Mais c'est aussi ça, peut-être, justement, le loisir d'avoir des eras différentes.
Exactement.
Et donc de pouvoir peut-être consacrer des temps à des obsessions du moment.
C'est exactement ça.
Camélia Jordana est avec nous jusqu'à 23h. Camélia, j'aimerais te poser, parce que tu as cité plusieurs influences là déjà, en plusieurs morceaux que tu écoutais, artistes que tu écoutais.
Ouais.
J'aimerais qu'on en savoir davantage. Si tu devais me donner une chanson de ton enfance, qu'est-ce qui passait à la maison?
Dalida.
Ok.
Dalida.
C'était tes parents qui écoutaient beaucoup Dalida?
Ma mère, elle écoutait, ouais, Dalida beaucoup. Joe Dassin, Brassens, Maria Callas, Michael Jackson.
T'as été élevé comme ça avec la chanson française?
Et un, deux, trois soleils, à fond.
Un, deux, trois, bien sûr. Ouais, bah 98, hein, c'est l'époque, ah ouais, évidemment. Ah ouais. La chanson française, ça passait beaucoup à la maison quand t'étais plus...
Cela, oui.
Okay.
Mais par exemple, j'ai pas trop le souvenir de Brel, Ferré, Piaf, tu vois.
Okay.
Qui sont quand même dans le temple.
Évidemment,
chansons,
au panthéon
des chansons, voilà. De la chanson française. Mais quand même, ouais, Brassens, Dalida, Joe Dassin, tu vois, c'était... Ouais, c'était quand même... C'était bien présent, ouais.
Une chanson ou un artiste qui te donne de la force quand tu doutes, quand ça va pas, quand tu te poses des questions, est-ce que tu écoutes quelqu'un en particulier?
Sur mon travail dans la musique ou dans la vie?
Dans la vie.
Quand ça va pas, j'aime bien écouter soit du Michel Legrand.
Ok.
Il y a une chanson que j'adore, mais que j'adore. La valse des lilas.
Ok.
Tu vois ce truc?
Non.
C'est sublime, ça fait... On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Et là, il y a un truc qui souffle sublime avec les cordes. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment. Toute la chanson est dingue. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui me fait du bien, parce que quand je vais mal, je me dis, bon, concentration... Le doute, ok. Les regrets, non. Et de toute façon, en effet, il y a toujours un moment où le printemps arrive, donc calmos, faire redescendre. Ça, c'est quand je doute dans la vie. Et quand je doute dans le travail, la Rosalía, ça me...
Ouais. Okay.
Rosalía, Kendrick et James Blake, c'est vraiment okay. mes trois piliers qui me réalignent. Et si vraiment on est dans le dur, Nina Simone.
Là, c'est vraiment quand ça va pas bien
ah,
du
là,
tout.
Là, ça va pas du tout, là.
Okay. Alors, c'est intéressant que tu cites James Blake, puisque bon, je suis un peu en avance, mais il y a toujours des recommandations dans l'émission. Merci. Et tu me citais... Enfin, tu as cité James Blake, Death of Love, son dernier morceau, qui donc annonce un album à venir. D'ailleurs, je propose qu'on écoute, vu que tu viens de le citer, un extrait de ce génie qu'est James Blake. Pourquoi James Blake? Pourquoi ce morceau? Parce que c'est quelqu'un que tu suis depuis 15 ans peut-être maintenant parce
depuis
que...
le début, ouais. Depuis son premier EP. Pourquoi ce morceau? Bah déjà parce que c'est l'un des derniers qu'il est sorti là, ouais. Comme extrait de son Exactement. Prochain album et que je suis surexcitée à l'idée qu'il nous offre un nouvel album. En plus de ça, parce que j'adore la communication qu'il y a autour de cet album, c'est lui, ses potes et son amoureuse qui sont tous en studio en train de faire de la musique tous ensemble et qui sont trop heureux avec leur chien. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon choix de vie. et en plus de ça, ce morceau en particulier, parce que bah, j'adore ce qu'il y raconte. Et en plus de ça, cette idée qu'il ait samplé Leonard Cohen, mais pour quand même revenir à quelque chose de finalement très minimal, avec sa petite 808 un peu trop aiguë, qu'il a bien mixé comme ça avec ses consonnes là derrière, juste derrière là, qui rebondissent. C'est un retour au James Blake du début.
Ouais.
Et... J'ai des potes qui sont pas forcément sensibles à la suite. Moi, j'avoue tous les James Blake différents qui nous a proposé. Mais évidemment, on a toujours un petit crush pour le premier, la première
la
relation.
Première fois,
la première
quelqu'un,
fois
évidemment.
Qu'on découvre quelqu'un, on a le cœur par terre.
Ouais.
Et du coup, le fait de voir qu'il y a de la place pour ça dans son prochain album, ça m'excite tout.
Et c'est intéressant aussi parce que c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup aussi au nom des artistes, au nom
qui est
indépendant aussi, notamment qui a beaucoup critiqué le streaming, la manière de, enfin les revenus que les artistes perçoivent. J'ai l'impression que toi aussi... tu prends la parole en tout cas et que tu vois sur ces sujets-là. Donc j'imagine qu'il y a aussi une forme de, peut-être même de communauté de pensée entre quelqu'un comme James Blake et quelqu'un comme toi, dans le sens où voilà, c'est quelqu'un qui fait de la musique mais qui a aussi un peu envie de changer la face de l'industrie. Alors est-ce qu'il y arrivera, je sais pas, parce que c'est compliqué, mais en tout cas il œuvre à son niveau,
ouais,
dans ce sens-là.
Et puis il est en bonne voie, il a déjà par exemple endorsé une plateforme qui s'appelle Vault, V-A-U-L-T, qui coûte 5€ par mois et sur laquelle les artistes livrent de manière très régulière, et on l'apprend par un texto qui nous est envoyé sur notre téléphone, on apprend en direct qu'il y a un nouveau morceau qui vient d'être déposé sur la plateforme, et donc il n'y a pas de système, il n'y a pas de structure, oui. C'est juste l'artiste qui dépose un titre qui n'est disponible que sur cette plateforme-là, donc c'est un lien direct avec son public et pour le public un lien direct avec l'artiste. Et puis même, je trouve qu'il a, il a quand même, il a déplacé le système. Il a fait se déplacer le système. C'est le seul mec qui se retrouve à avoir une telle discographie, à être tant demandé, à travailler avec les plus grands artistes de notre génération. Et pour autant, tu descends dans la rue, tu dis James Blake.
Exactement.
Les gens ne connaissent pas forcément, c'est pas quelqu'un
qui peut marcher assez tranquillement à Paris, je pense.
Ah, c'est certain.
Ouais, ouais.
Mais il est complètement indépendant et il se permet des choses avec d'autres artistes. Il emmène des artistes à certains endroits. Et en même temps, du coup, ça lui offre lui aussi une grande liberté sur sa musique. Et ça a l'air de le rendre hyper heureux en plus. Donc je trouve ça très encourageant de voir des artistes indés qui communiquent sur leur manière de créer, leur autonomie et leur joie là-dedans. Parce que c'est vraiment très rare, des artistes heureux. Ça paraît un peu de niais dit comme ça, mais pour avoir beaucoup d'amis artistes, je vous avoue que les artistes qui ont eu un écosystème qui les apaise et qui les rend heureux, j'en connais très peu.
Bon, y a, je pense qu'une personne qui, à mon avis, ne peut pas trop se balader dans Paris en ce moment, c'est Théodora.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Elle était dans l'émission la semaine dernière. Je propose qu'on écoute son tout dernier extrait en date qui s'appelle Des mythos. T'aimes bien Théodora?
J'adore Théodora.
Qui n'aime pas Théodora?
Qui n'aime pas Théodora? Voilà, qui n'aime pas Théodora? Même pourquoi les gens ont un problème? Qui aurait un problème avec Théodora en fait?
On écoute Théodora, Des mythos.
Je m'appelle la familia. Il me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir, oui, y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou, cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas, belle maison cahier. Je flexé déjà sans carrière. Cette chip non bah ouais, c'est carré. Comme maman, j'aime les pierres taillées.
Demi-to, Théodora, dernier extrait en date. Je crois que c'est aussi un single, ce qu'elle m'explique en interview, qui annonce une nouvelle era pour Théodora. Donc voilà, on verra ce que ça donne.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et nous sommes donc avec Camélia Jordana. D'ailleurs, c'est toi qui as remis aussi les victoires, enfin à Théodora notamment.
Oui, celui du meilleur album. Et elle a eu un discours que j'ai trouvé extrêmement élégant. Comme elle, dans lequel elle a remercié évidemment ses équipes, son frère avec qui elle travaille, ses meilleurs potes, etc. Et puis elle a aussi remercié les artistes dont les projets ont permis que le public et les médias puissent comprendre son projet. Elle. Donc elle a cité, comme tu disais tout à l'heure, notamment Aya Nakamura, Tiakola et tout. Et je trouve ça trop classe.
Alors c'est l'heure des recommandations, tu m'en as donné plusieurs, il y en a une qu'on a déjà, dont on a déjà parlé, c'est James Blake, mais tu m'as cité un film qui je crois est le dernier film que tu as regardé, c'est Les chansons que les frères m'ont apprises de Chloé Zhao, un film que je n'ai pas vu, pourquoi ce film ?
Écoute, je me baladais sur Mubi, j'avais pas envie d'aller sur Netflix, bien que j'adore aussi Netflix, mais là j'avais envie de regarder une chose qui...
T'étais sur quoi pardon ?
Mubi.
Je connais même pas cette plateforme.
Ah, oh, trop bien, tu vas tellement kiffer.
Okay.
Mubi, c'est une plateforme assez ouf avec que des films magnifiques.
Ok.
C'est ça le business.
Ok, il y a une curation. Ok, très bien.
C'est, on vous a fait une sélection de ouf, maintenant, kiffer.
Ok, trop bien.
Et si je pouvais, j'y passerais beaucoup plus de temps, mais malheureusement, j'arrive pas trop à trouver ce temps-là. Et donc justement, j'étais à la campagne et j'ai voulu mettre mon cerveau sur off et me dire « Oh là là, il y a de la nature autour de moi, je vais pouvoir regarder un beau film. » Et donc je suis allée sur Mubi et je suis tombée sur le film de Chloé Zhao, qui est une réalisatrice sino-états-unienne, si je ne dis pas de bêtises, qui a été nommée et qui, je crois, a même reçu un Oscar il y a un ou deux ans pour un film qu'elle a fait que je n'ai toujours pas vu. Et je ne savais pas trop à quel endroit il se situait dans sa filmographie. J'étais juste curieuse de rencontrer la réalisatrice, quoi. Et j'ai adoré en plus le titre. Les chansons, je ne sais plus comment ils ont dit, les chansons que
les frères m'ont apprises.
Que mes frères m'ont apprises, voilà. Songs that my brother taught me, je crois que c'était ça, exactement. Et déjà, le titre m'a appelée. Et en plus, j'ai vu que c'était cette dame-là, et donc ça m'a encore plus interloquée, intéressée. Et ça se passe dans une réserve aux États-Unis, les réserves donc, de Native Americans. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort, très beau, très bien filmé, et ça m'a vraiment marqué, il m'est vraiment resté.
C'est intéressant parce que quand on t'a découvert, toi, je reviens là-dessus, mais en fait, c'était par la porte du mainstream, via un télécrochet énorme, etc., premier album. J'ai l'impression que plus ça va, peut-être que je me trompe, et plus tu t'éloignes du mainstream, en fait. Après, on peut t'y voir, puisqu'en fait, on peut te voir aux Victoires de la Musique, etc. Je pense pas qu'il y a un rejet. J'ai l'impression que dans tes goûts, et dans ce que tu proposes, aussi bien dans la musique que même des choix de films, peut-être même dans ce que tu as l'air aussi de consommer, d'écouter, de regarder, que tu es attiré par autre chose.
Ouais, je suis contente aussi d'aller chez Télématin, hein. Pour parler à...
Oui, mais l'idée, c'est d'y aller avec ta proposition à toi.
Ouais, bien sûr.
C'est ça qui est...
En fait, je ne sais pas si c'est un truc qui se radicalise avec le temps ou quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une chose que j'ai eu la chance de pouvoir explorer dès le début. Parce que donc, il y a eu évidemment La Nouvelle Star, qui est une émission hyper populaire, oui. C'est la télévision. Et puis, en fait, tout de suite après La Nouvelle Star, quand j'ai commencé à travailler sur mon premier album, il y a Yann Gazi, que j'embrasse tendrement et chaleureusement, qui était mon directeur artistique, un de mes deux directeurs artistiques, avec Sylvain Gazen, que j'embrasse aussi. Oui. Yann Gazi, c'était un des directeurs artistiques qui, lui, m'a fait rencontrer des gens comme Babix, comme elle, Raphaël Lanader, donc Mathieu Bogart, Séverin, Abel Cahin, qui sont tous les gens qui ont fait mon premier album, qui ont créé les chansons, etc. Et alors que, donc justement, on avait reçu, je disais, 400 chansons, ou je sais pas.
Ouais, ouais.
Et il y avait plein de, tu vois, de choses très pop, beaucoup plus faciles d'accès que certaines chansons qui se sont retrouvées dans l'album. Mais simplement le fait de m'avoir fait rencontrer ces gens, de m'avoir fait écouter leur musique et que je leur dise « Attends, mais ça me touche vachement, j'aimerais bien diguer cette direction-là ». Bah, du coup, je rencontrais les artistes, du coup, je les voyais faire. Et voilà, c'était tout un process qui, après moi, m'a beaucoup touchée et qui a fait que bah, c'était très évident, en fait, de travailler avec ces gens-là. Et si tu veux, c'était très marrant, d'ailleurs, sur la première tournée. J'étais accompagnée de Babix et de son band à lui. Et du coup, c'était marrant parce qu'on se retrouvait avec des artistes qui sont des espèces de poète super indé, tu vois, ange, soldat, sorcier, tu vois, qui tiennent la barre et qui ne lâcheront jamais une virgule de quoi que ce soit qui n'est pas indé, qui eux étaient déjà en indé à l'époque, et même s'ils bossaient avec 5-7, avec Tôt ou Tard et tout, mais il y avait une forme quand même d'autonomie dans leur travail, ils avaient déjà produit des disques et tout pour eux-mêmes. Et donc j'étais en tournée avec ces gens-là, je cohabitais avec ces gens-là, je vivais pratiquement avec ces gens-là, je mangeais avec ces gens-là. Et en tournée, on était avec un public qui m'avait connu via la télé. Mmh. Donc un public très familial, qui venait avec des pancartes et tout, enfin trop mignon, ouais, tu vois. Et du coup, c'est vrai que
c'était
le décalage...
C'était déjà entre les deux.
C'était déjà entre les deux. Donc moi, j'ai le sentiment d'avoir grandi toujours en faisant ce grand écart-là, de la même manière que, tu vois, dans les choix de films que j'ai la chance de pouvoir faire, ça va de films très indépendants à des comédies, tu vois. Et j'adore pouvoir faire les deux. Ça m'est arrivé que Thomas de Pourquerie, qui est un musicien extraordinaire, jazzman notamment, mais pas que, chanteur magnifique, m'invite parce qu'il était artiste associé à Jazz sous les pommiers à Coutances, qui est un festival génial. Et donc, il m'invite avec Alice Lewis, Élise Caron, je crois, Jeannette Dead, enfin voilà, la fine équipe des Chéries, pour faire des chœurs pour le concert final à Jazz sous les pommiers pour la fin de sa résidence. Et je me retrouve, je te jure, à chanter les chansons de jazz de Thomas, en faisant des chœurs, des chansons qu'on joue dans plein de trucs différents, ou le soir en jamant chez lui, machin truc à l'époque. Et au premier rang du concert à Coutances de Jazz sous les pommiers, au concert de Thomas de Pourquerie avec Élise Caron et Alice Lewis à mes côtés, il y a deux de mes fans numéro uno qui m'ont connu à la télé, qui me suivent sur chacun de mes projets et qui étaient mais comme ça en train de me déchaîner, trop heureuse. Et en fait, de les voir là, dans ce cadre-là, j'étais là, j'ai réussi mon coup, tu vois. Parce que je suis trop contente de simplement pouvoir faire des ponts, tant dans les différents genres musicaux, que dans les différents genres cinématographiques, que dans les différentes cultures desquelles je suis issue. Et c'est notamment pour ça qu'on se retrouve aussi avec plein de langues différentes dans ma musique, avec plusieurs cultures qui sont mises à l'honneur et tout. Parce qu'en fait, je crois que j'ai un peu toujours vécu comme ça. Un peu Le cœur entre mille chaises.
Bon, ben en tout cas, un des meilleurs exemples de ça, c'est ton nouveau morceau, oui. qui est donc disponible, le clip également, donc j'encourage tout le monde à aller écouter et regarder ce très joli clip. Merci beaucoup, Camille, d'avoir été là avant. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, de retracer un peu ce parcours et cette histoire. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique, ce soir, c'était Jérôme Ragano et Rémi Fistiaga. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons avec Seb pour découvrir, redécouvrir nos émissions. Abonnez-vous sur l'application Radio France.